Alors ce matin, on a la chance d'avoir David Ratovo parmi nous, en visite. David est pasteur, missionnaire de la CIM. Il est soutenu par l'Église donc depuis de longues années. Et on a la chance, il est en voyage en Europe maintenant. C'est lui qui nous apporte le message. Et après le message, il va nous donner aussi quelques nouvelles sur son travail, sur le travail de la CIM à Madagascar. Voilà, je lui mets juste le micro, puis je lui laisse la parole. Merci.
M'entendez? Parce que moi, je ne m'entends pas. Bonjour à tous. Oui, en effet, c'est une grâce d'être parmi vous encore ce matin. Et nous avons vraiment le privilège de pouvoir venir ici à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Parce que, comme vous le savez, dans d'autres pays, c'est pas évident. Les chrétiens sont persécutés. Et les chrétiens ont peur d'aller à l'église. Question de sécurité. Des centaines de bâtiments, d'églises ont été détruites. C'est vraiment une grâce et nous pouvons louer le Seigneur que là, tous ensemble, nous pouvons l'adorer, prier, écouter sa parole. Mais nous sommes solidaires de tout le corps de Christ. Et ce matin, j'aimerais que nous, ensemble, nous puissions encore méditer cette parole dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Verset 1 à 5, qui nous montre encore l'importance de cette union, le fait d'être ensemble dans le service du Seigneur. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens 4, verset 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Nous connaissons le contexte de l'église de Corinthe. Il y avait des divisions. Voyons ça dans le chapitre 1. Certains disent, moi je suis pour Paul, moi pour Apollos, moi pour Pierre, moi pour Christ. Et les Corinthiens étaient contaminés par la mentalité du milieu. Dans le choix des maîtres, de son maître, je me choisis mon maître, je me choisis mon leader. Et c'était les disciples qui choisissaient leur maître. Nous savons bien que pour Jésus, ce n'était pas ainsi. C'est comme il le dit lui-même, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors Paul va opposer à cela le message de la croix. Et Paul de rappeler que ce soit lui, Apollos ou Pierre, ce ne sont que des collaborateurs sous les ordres du Christ au même titre. C'est étonnant que un Paul, on dirait de nos jours un universitaire de haut niveau, se mette au rang d'un Apollos qui avait beaucoup de talent, il faut le dire, mais à qui il fallait encore enseigner certains principes élémentaires de l'Évangile. C'est aussi étonnant et que Paul aussi se mette au même niveau qu'un Pierre. Ce Pierre qui l'avait surpris un jour à Antioche avoir un comportement un peu ambigu par rapport aux païens et aux juifs. Ici donc, Paul se considère comme un collaborateur, un égal avec Apollos et Pierre au service de Christ et de l'Évangile. Nous voyons cela au chapitre 3, versets 8 et 9, que nous allons lire rapidement. 3, versets 8 et 9. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Quelle leçon pour nous, n'est-ce pas déjà ? Leçon d'humilité. Paul reconnaît le ministère de Pierre, il reconnaît le ministère d'Apollos comme aussi important que le sien dans la croissance de l'Église. Et c'est déjà une leçon à imiter, n'est-ce pas, que nous sommes tous collaborateurs dans la croissance de l'Église. Alors, au verset 16 de ce même chapitre, Paul nous invite à l'imiter. Mais alors, dans quel domaine nous allons l'imiter? J'aimerais que ce matin, nous méditions sur deux termes que Paul utilise dans ce passage, deux termes qu'il va utiliser pour se qualifier lui-même et aussi pour indiquer dans quel sens nous pourrons l'imiter. Le premier terme que nous voyons donc au verset 1 du chapitre 4, c'est le terme de serviteur. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ce terme signifie esclave. Pour ceux qui connaissent un peu le grec, ce n'est pas le terme habituel qui est utilisé ici. D'habitude, on entend le terme doulos, on l'utilise, mais là, c'est un autre terme qu'on utilise qui signifie celui qui en aide un autre dans son travail. Celui qui en aide un autre dans son travail. C'est le terme hyperétès. Esclaves, il y en avait de toutes catégories au temps de Paul. Il y avait ceux qui étaient haut placés, des profs, des intendants, et ceux qui étaient de très très basses conditions. Et en faisant des recherches un peu sur ce terme hyperétès, j'ai vu que on pouvait le traduire par galérien. Les galériens, c'était ces esclaves qui étaient enchaînés à fond de cale dans les navires romains, qu'on appelait des galères. Et là, on va vous montrer une image pour que nous ayons vraiment cette image en tête. Donc, ces esclaves qu'on appelait donc les galériens, ils n'avaient qu'un seul travail. Quel était ce travail? Ramer. 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 Rien d'autre. Aucun autre souci, aucun travail que celui de ramer. Sous l'autorité d'un chef, leur seule responsabilité était donc de faire avancer le bateau. Paul n'avait qu'un seul souci, c'est faire avancer l'Église sous l'autorité d'un seul chef, le Christ. Et pour ce faire, il a accepté d'être vraiment à la dernière place. Au verset 9 de ce même chapitre, voici ce qu'il dit. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Alors, à ces Corinthiens qui se disputaient sur les questions des dons de l'esprit, qui avaient le meilleur don, le don le plus important, bien Paul les exhorte à chercher les dons qui feront avancer l'Église. Posons-nous aussi la question, quel est notre principal souci? Quel est notre rêve en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur? Est-ce être considéré, avoir de nombreux partisans, avoir une distinction particulière, chercher notre propre épanouissement, ou tout simplement faire la joie du Seigneur en accomplissant chacun pour soi avec humilité la part de service qui m'est attribuée. Chapitre 3, versets 5 à 6, nous voyons différents aspects de ministère que chacun a reçu du Seigneur. En effet, quel épanouissement pouvaient avoir les galériens, les esclaves au fond de cale? Aucun. Un seul souci, un seul travail, ramer, pour faire avancer le navire. Et Paul, n'est-ce pas, se compare à cette catégorie d'esclaves. Selon que le Seigneur a donné à chacun, nous travaillons ensemble, sans conflit, sans rivalité, sans jalousie, pour nous différencier un peu de ces chrétiens corinthiens qui étaient tellement imbus de leur position, de leur don spirituel. La deuxième chose, deuxième aspect de cette catégorie d'esclaves, les galériens, c'est qu'ils n'avaient pas la liberté de faire ce qu'ils voulaient. On entre un peu plus profondément dans cette catégorie d'esclaves. Ils attendaient l'ordre qui venait du capitaine du bateau et ils agissaient avec une discipline de fer, c'est le cas de le dire, avec la cadence qui était donnée par un tambour. Je ne sais pas si on peut remettre. Donc, on ne voit pas très bien, mais tout en haut, nous voyons une sorte d'estrade, de pupitre où il y avait un batteur qui tapait sur un tambour et donnait ainsi le rythme des mouvements des rameurs. Et il fallait absolument suivre ce rythme, sinon c'était la catastrophe. Le bateau n'avançait pas, les rames pouvaient se casser, et en temps de guerre, dans les batailles navales, eh bien c'était la défaite assurée. Bon, en d'autres temps, en d'autres lieux, je vous aurais fait ramer, mais là j'ose pas. Pour que nous puissions vraiment sentir que les mouvements qu'ils imprimaient sur les rames, il fallait absolument que ce soit synchronisé, cadencé, suivi le rythme des tambours. Et quelle leçon nous pouvons tirer de cela? Le serviteur du Seigneur est appelé à imiter non seulement Paul, mais surtout le Christ lui-même. Lui qui, bien que fils de Dieu, a appris l'obéissance, n'a pas cherché à faire ce qui lui plaît. Il est dit même qu'il a appris de Dieu. Il a appris l'obéissance. Jésus-Christ a appris l'obéissance. Et nous avons à l'imiter. Et il a mené à son accomplissement la mission que Dieu le Père lui a confiée, c'est-à-dire racheter un grand nombre de pécheurs en mourant sur la croix pour nos fautes. Et pour cela, il a accepté d'être rabaissé au rang de serviteur et il a obéi jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2. Et Paul aussi, qui imite son Seigneur, décrit comment il a aussi vécu ses difficultés dans son ministère. Au verset 11 à 15, dans ce chapitre 4 toujours, voici ce qu'il dit. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénouement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Les conditions dans lesquelles il a vécu pour accomplir sa mission. Ce n'était pas facile. Alors, dans l'imitation de Paul et de Jésus-Christ, armons-nous aussi de cette disposition d'esprit d'être prêt aussi à subir des difficultés, des souffrances. Bon, on peut dire que peut-être, par rapport à d'autres, nous sommes privilégiés, n'est-ce pas ? Nous vivons bien, nous ne sommes pas persécutés. Mais qui sait ? Le monde est tellement bouleversé maintenant. Nous vivons dans un contexte de terreur. Et en regardant un peu les nouvelles et les articles par-ci par-là, nous savons que les chrétiens sont particulièrement visés. Alors armons-nous de cette idée aussi. Que nous soyons conscients que nous pourrions être aussi des cibles. Je ne veux pas être alarmiste, mais nous imitons la vie de Paul, la vie de Jésus-Christ, et nous devons être prêts à toute éventualité. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Bien sûr, ce n'est pas dans un esprit masochiste et vouloir s'offrir, souffrir pour le plaisir de souffrir, mais être prêt à affronter les épreuves, quelle que soit son ampleur. Mais alors dans un esprit de service. Troisième aspect concernant ces galériens, c'est que il était important pour ces esclaves galériens de travailler dans une parfaite synchronisation et harmonie. Ils étaient enchaînés deux à deux et une longue chaîne, n'est-ce pas, les reliait tous les uns aux autres. Et si le bateau coulait, tout le monde coulait ensemble. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Ben Hur, c'est un film qui date déjà, mais qui montre justement où le fameux Ben Hur dans ce bateau a coulé avec les autres esclaves, et qu'il a quand même réussi à se libérer. Mais alors, voilà, condamné à couler avec les autres. Il fallait que chacun, comme je l'ai dit, écoute attentivement le batteur qui donnait le rythme. Et ce batteur lui-même obéissait au capitaine. Et la victoire on dépendait dans les batailles navales. Nous aussi, bien que travaillant en des lieux, dans des domaines différents, nous sommes embarqués sur un même bateau. C'est le bateau, je dirais, du royaume de Dieu, de l'Église. Et chacun, pour sa part, nous écoutons le Seigneur, tout en sachant que, et en tenant compte que l'autre, à côté de moi, écoute aussi le Seigneur. Ce n'est pas moi seul qui écoute le Seigneur, c'est nous tous, et chacun particulièrement, écoute le même Seigneur. Tu n'es pas le maître, tu es le serviteur, comme ton frère, comme ta sœur. Et ce n'est pas à nous de critiquer, de juger comment l'autre manie sa rame, n'est-ce pas? Bon, moi, je veux ramer en avant, lui, s'il rame en arrière, tant pis, moi, j'écoute le Seigneur, je ne sais pas si lui, il écoute. Non, nous sommes embarqués sur, excusez-moi du terme, sur cette galère. Mais c'est une belle galère, n'est-ce pas? Faire avancer l'Église. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Si vous voulez des dons, n'est-ce pas, demandez les dons qui vont faire avancer l'Église. Et non des dons qui vont vous mettre en avant. Et comme je disais, ce n'est pas à moi de faire des procès d'intention à l'égard d'un frère ou d'une sœur par rapport à ses motivations. Car le juste juge de nos actions, c'est le Seigneur. Je vais relire le verset 4 et 5. Car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Et c'est ça qui est encourageant. C'est ça qui est bien avec notre Seigneur. C'est qu'il sait exactement ce qui nous pousse à le servir, ce qui nous pousse à l'aimer. Et cette parole, j'aime beaucoup cette parole de Paul. Car c'est lui qui donnera sa juste récompense à chacun. Et Dieu ne se trompe jamais sur la valeur exacte de ce que nous aurions fait pour lui. Que ce soit un verre d'eau donné, que ce soit un lit pour une nuit, merci aux amis qui m'accueillent, le Seigneur sait quelle est la valeur de ces pactes que nous aurons accomplis pour lui. Et nous pouvons être sûrs que quoi que nous fassions, quoi que nous ayons fait, pour lui, il sait exactement quelle en est la valeur. Et nous pouvons lui faire confiance à ce sujet. Car quand nous faisons quelque chose pour les autres, c'est à lui-même qu'on l'aura fait. D'autant plus si nous avons œuvré pour l'avancement de son règne, eh bien, il saura nous récompenser en temps voulu. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les cœurs, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu sait parfaitement ce que vous, Église de Prépsin, avez fait depuis tant d'années pour le ministère à Madagascar et pour la famille Ratovo en particulier. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Je profite de l'occasion pour vous remercier de vive voix pour votre fidélité, non pas à nous, mais vraiment au Seigneur. Voilà donc le premier terme. Le deuxième terme sera plus court, je vous rassure. Serviteur esclaves, enchaînés au Christ, travaillant ensemble pour l'avancement de son règne. Le deuxième terme que Paul utilise ici, c'est le terme d'administrateur ou d'intendant. Donc, qui signifie manager, gérant, économe. Et c'était aussi des esclaves, souvent, qui avaient ce rôle. Et Paul se dit administrateur, intendant du Seigneur. Et le rôle de cet administrateur était de gérer les biens de son maître. Nous pensons à Joseph, qui a géré les biens de son maître Potiphar. Et il l'a fait vraiment dans la crainte du Seigneur. Et il doit rendre compte de sa gestion à son employeur, à son patron, à la fin de, selon l'ordre que le patron lui donne. Il n'est pas le propriétaire de ses biens, mais il doit faire marcher les affaires de son maître, faire fructifier, faire développer, etc., prendre des initiatives comme cela lui apparaissait qu'il fallait prendre, donc, pour pouvoir être jugé digne de cette fonction. Et à la fin, le maître pourra le féliciter en disant: « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » Cela m'a beaucoup encouragé, n'est-ce pas? J'espère que vous aussi, d'entendre ces paroles que le Seigneur sait ce que nous avons fait et c'est à lui de nous féliciter du peu ou de beaucoup que nous aurons fait pour lui. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons fidèles. Ce qu'on attend de l'administrateur, du gérant, c'est qu'il soit fidèle, d'être digne de confiance. Sa fidélité la fidélité plutôt est un caractère de Dieu. Et comme Dieu est fidèle, Jésus est fidèle, il nous demande aussi d'être fidèle. Et la fidélité ne dépend pas de la quantité, n'est-ce pas, des choses accomplies, mais la qualité de notre service. Dans la parabole des talents, que ce soit 5, 2 ou 1 talent, Jésus les qualifie de petites choses. On vous a confié une petite chose. Donc, ce n'est pas la question de quantité qui compte, c'est vraiment la qualité, notre fidélité dans les petites choses. Cela veut dire que si on me confie quelque chose, une tâche, petit ou grand, on peut être sûr que cette tâche sera accomplie. Voilà la fidélité. Et qu'est-ce que nous avons à gérer? Ici, Paul dit, ce sont les mystères de Dieu ou les secrets de Dieu. En fait, c'est tout le contenu de la Bible, tout le contenu de la révélation. Et que maintenant, nous avons vraiment le privilège d'avoir cette révélation écrite que nous pouvons lire tous les jours. Et nous avons l'Église et ses serviteurs de Dieu qui nous enseignent toutes ces vérités, tous ces mystères de Dieu. Et nous avons donc à gérer cela, à manager cela pour faire avancer l'Église de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais il y a aussi, donc parmi ces vérités, il faut les enseigner, des doctrines à défendre, des exhortations, des consolations à donner, le salut à prêcher, à proclamer, etc. Voilà comment gérer tout ce mystère de Dieu qu'il nous a confié. Mais il y a aussi les dons que nous avons reçus, que nous avons à les utiliser pour faire avancer l'Église. Mais aussi, il y a des personnes, n'est-ce pas, que le Seigneur a mis sous notre responsabilité. Nous avons aussi, n'est-ce pas, à les entourer, à faire en sorte qu'ils progressent à faire en sorte qu'ils soient aussi, plus tard, des serviteurs fidèles. Mais il y a aussi le matériel qu'on nous confie. Toutes ces choses, ce sont des dépôts que le Seigneur met à notre disposition afin que nous puissions les gérer fidèlement. À vous de voir dans quel domaine vous êtes et comment vous allez répondre à ce service que le Seigneur nous donne à chacun. Comme je disais au début, nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes simplement des gérants. Mais finalement aussi, il y a ta personne elle-même. Comment tu gères ta personne, ton corps, ton esprit? Comment tu nourris ton corps et ton esprit? Nous avons aussi à être des administrateurs de ce corps si bien fait que le Seigneur a mis à notre disposition. Comme le dit Paul à Timothée, prends soin de ta personne. Conclusion. Paul nous exhorte donc à l'imiter, à prendre modèle sur lui et sur Jésus-Christ. Non pas en tant qu'esclaves des hommes, mais à être des serviteurs de Christ au service de l'Église. Pour cela, il nous encourage à travailler ensemble, en harmonie. Nous soutenons les uns les autres, nous encourageons mutuellement, sachant que nous aussi, nous sommes sous les ordres de ce même maître. Apprenons à nous respecter les uns les autres, à apprécier le travail que fait l'autre, étant prêt à supporter les difficultés sans nous révolter, sachant que notre Seigneur les a souffert avant nous et avec nous. Et à la fin de notre ministère, nous pourrions dire avec Paul et avec humilité, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous enseignes chaque jour et fais Seigneur que nous puissions vraiment t'obéir, t'imiter dans toute notre vie, que nous soyons de bons administrateurs aussi de tous les dons que tu nous as donnés pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. On passe tout de suite au... Je peux quand même boire un peu. Bien, alors, merci de votre patience. Depuis donc début 2013, je suis engagé avec la CIM, c'est-à-dire la Société Internationale Missionnaire en français, mais c'est une association qui... dans le monde. Et qui a comme objectif de proclamer l'évangile, répondre aux besoins et équiper l'Église. C'est une association qui a bien des années d'existence, plus d'une centaine d'années, qui est parti, donc de 3 jeunes qui sont partis au Soudan. Donc le nom SIM, c'était d'abord Soudan Interior Mission. Donc ils sont allés tout au fond, au milieu plutôt du Soudan, le grand Soudan de cette époque. 2 parmi eux sont décédés et un seul qui a survécu, donc a continué. Et voilà maintenant la SIM travaille dans plus de 70 pays et qui comporte et qui a environ 1800 missionnaires qui travaillent pour accomplir ces objectifs. Et bien sûr, la devise de la SIM, c'est par la prière. Et je suis malgache, mais je suis envoyé par SIM France. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On a une histoire bien avec la France, en tout cas avec le SIM France. L'action de SIM France et Belgique, donc, mobilisée pour le service chrétien, formée à la mission et envoyer ceux que Dieu appelle, accompagner les missionnaires avant qu'ils ne partent, quand ils sont sur le champ et quand ils reviennent. Et là, je suis un peu comme après 4 ans de mission à Madagascar, je fais ma tournée ici et je reprends contact donc avec le bureau d'envoi. Depuis 2013, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais nous avons maintenant un bureau SIM à Madagascar. Donc voilà Madagascar. Et la SIM était déjà présente à Madagascar dans plusieurs lieux. D'abord à l'hôpital Bonne Nouvelle, tout au nord de Madagascar, où il y a déjà des missionnaires SIM qui étaient là avant la création du bureau à Madagascar. C'est Debbie Simpson qui vient d'Irlande, les Sherat, famille Sherat qui vient d'Angleterre, et la famille Judkins aussi qui viennent d'Angleterre. Ensuite, à Tananarive, à la capitale, il y a donc le bureau SIM où je travaille donc en tant que directeur. Il y a aussi d'autres institutions comme l'ISTE, l'Institut supérieur de théologie évangélique, où j'enseigne, et on a aussi un partenariat avec l'ISTE. Puis il y a le CEFOI, le Centre évangélique de formation de l'océan Indien, où il y a une famille de missionnaires qui est avec la SIM aussi, Mamfé, Nanita et leurs 3 enfants. Ensuite, nous avons le centre Timuti à l'est. C'est là où, grâce à la laine que vous avez sûrement vue, c'est là qu'ils ont travaillé avant d'aller à l'IBG. C'est un centre polyvalent où il y a une école biblique et un dispensaire. Et puis, il y a tout un travail de développement avec les villageois. Le but de ce centre, c'est d'équiper les églises et les pasteurs afin qu'ils deviennent des églises autonomes et que plus tard, ils puissent envoyer aussi des missionnaires localement et puis, qui sait, peut-être à l'extérieur. C'est tous des églises de campagne. C'est pour ça qu'on a installé une école biblique dans ce centre et ils reçoivent là les enseignements bibliques, bien sûr, mais aussi une formation à l'élevage, à l'agriculture. Il y a des personnes qui vont les aider à planter du riz, à élever des poules, etc. Donc, il y a tout un travail d'ensemble qui est fait dans ce centre Timothée. Donc, c'est les missionnaires qui sont là, Jimmy et Marlise et leurs 4 enfants, qui sont soutenus par SIM Suisse, et on travaille vraiment en collaboration. En Tirabé, à 160 km de Tananarive, il y a l'église Seim, communauté évangélique indépendante de Madagascar, où il y a la famille Lé, Alexandre et Asse et leurs 3 enfants, qui travaille parmi la jeunesse et les couples. Il y a aussi le séminaire baptiste où j'enseigne aussi. Et voilà un peu les différents points où la CIM est déjà présente à Madagascar, mais on a des projets d'étendre encore plus. Mon ministère particulier, donc, c'est, comme vous pouvez le lire, coordonner les différents projets, les différents ministères pour le recrutement, c'est-à-dire voir dans quelle mesure, dans ces différents projets, voir les besoins en personnel. Donc, on envoie des demandes, en quelque sorte, d'emploi pour des missionnaires à court terme ou à long terme, pour travailler, par exemple, dans le centre Timothy ou bien à l'hôpital. Administrer, c'était pas une mince affaire de faire tous les papiers pour avoir l'autorisation d'ouvrir l'association CIM Madagascar. Pour la demande d'ouvrir le dispensaire, il fallait suivre les dossiers. On a mis presque 3 ans pour avoir ces papiers. Donc, il fallait aller dans les bureaux, revenir 3-4 fois. Et il faut quelqu'un pour le faire. Suivi des dossiers, gestion des finances. Donc, pour les projets, pour le fonctionnement du bureau. Les visas pour les missionnaires qui viennent. Là, c'est un parcours de combattants aussi pour faire les visas. Et relation donc avec CIM International, CIM France, CIM Afrique du Sud qui chapeaute un peu la région de l'Afrique du Sud, Madagascar, La Réunion et Maurice. Développer la collaboration avec les partenaires, c'est-à-dire les églises locales, les mouvements d'évangélisation, ces institutions. Donc là aussi, il faut bouger, parler beaucoup. Encourager les missionnaires. Comme vous voyez, ils sont un peu répartis sur des grandes distances. Du nord au sud de Madagascar, il y a 1000 km environ, 24 heures de taxi brousse. Alors, bon courage. Les accueillir quand ils viennent, les orienter, leur donner un peu les principes élémentaires. Ils reçoivent déjà ici en partant, mais arrivés là-bas, il y a d'autres choses qu'on leur dit. Les accueillir, les héberger pour quelques jours, les visiter de temps en temps, là où ils sont, et organiser tous les 2 ans, on a décidé tous les 2 ans, des retraites spirituelles pour tous les missionnaires CIM de Madagascar. Et bien sûr, formation des leaders chrétiens où je suis aussi bien impliqué. Je vais vous montrer par rapport à cette formation. Dans tout Madagascar, nous avons plusieurs régions déjà qui sont fonctionnelles, où il y a des écoles publiques, d'abord dans la région de Tananarive, au centre, au nord, nord-ouest, tout au nord, à l'est, 33. Donc les chiffres, ça indique le nombre d'étudiants qu'il y a dans ces régions. Là, à l'ouest aussi, à Matar, au centre Timothy, tout au sud, et dernièrement, on vient d'ouvrir un centre en Tirabé, pas loin d'Antananarivo. Donc, 7 régions qui fonctionnent avec 121 étudiants. Alors, c'est une nouvelle structure qu'on a mise en place pour vraiment aller là où ils sont. Parce que les faire venir en Tirabé, au séminaire, c'est un peu difficile parce que la plupart sont des personnes qui travaillent les champs, qui ont leur travail. Donc, là, ils font des sessions de 3 ou 4 semaines, 2 fois par an, et on vient vers eux, les enseignants vont vers eux. Et personnellement, j'enseigne dans 4 de ces régions. Bon, une photo, des étudiants avec leurs femmes qui étudient aussi au Centre Timothée. Donc, comme vous voyez, tout cela requiert quelque chose pour avancer. Tout d'abord, donc, sur le plan financier, le missionnaire est collaborateur, n'est-ce pas, de nous tous, de vous tous, pour accomplir tout ce travail. Donc, il y a le soutien, pouvoir vivre un peu comme tout le monde. Et puis, il y a tout le ministère des transports, communications, logistique. Tout cela, donc, a besoin d'être soutenu. Mais surtout, nous avons besoin de partenaires de prière. Nous allons essayer de vous communiquer un peu plus souvent de nos nouvelles pour que vous puissiez nous prier pour nous. Donc, j'ai laissé des flyers, là, peut-être qu'on a mis derrière, que vous pourrez prendre et coller quelque part. Comme ça, vous pourriez penser et prier pour nous. Ces derniers temps, nous avons reçu des équipes qu'ils appellent Mission Découverte pour découvrir ces champs missionnaires et peut-être, qui sait, susciter des intérêts pour aller en mission. Alors, voilà, soit aider à la construction. Ça, c'était au Centre de Timothée. Une équipe pour faire des clubs d'enfants dans le village ou avec les jeunes filles. Il y a beaucoup d'opportunités de servir. Il suffit de dire et la CIM organise. Voilà. Donc, les sujets de prière, reconnaissance pour l'obtention des autorisations, ça a pris du temps, mais enfin, on les a, et gloire à Dieu. Recherche de partenaires pour le soutien, et surtout que des missionnaires à plein temps et à long terme puissent venir dans ces différents ministères et projets à Madagascar. Et pour le pays, Madagascar qui n'est pas dans... est dans une situation un peu difficile sur le plan économique et politique, mais on peut encore travailler, on peut prêcher, on peut répandre la bonne nouvelle, donc prier pour que ces troubles puissent ne pas empêcher la progression de l'Église. Et voilà une photo de famille. Pour ceux qui nous connaissent, la famille est un peu... grandi un peu beaucoup. Voilà, j'ai quatre enfants, donc, et les trois filles sont mariées, il y a six petits-enfants. Il reste le fils qui n'est pas encore marié. Merci de votre attention. Et pour le contact, c'est là, mais c'est aussi sur le flyer. Merci.
Un grand merci à chacun des participants pour ce qu'on a partagé, ce qu'on a reçu pendant ce temps de culte. Merci David, que Dieu continue de t'accompagner, te bénisse aussi dans ton travail, pendant ce temps aussi en France, tant de ressourcements, mais j'imagine un temps aussi bien chargé de visites et de rencontres des différentes églises. Voilà, je partage avec vous les annonces du programme de la semaine. Une information qui n'est pas marquée sur l'écran, dans les informations qui vont apparaître. Cet après-midi, il y a le baptême de Jérémy Porter. Donc, Jérémy Porter, qui s'est bien impliqué dans les clubs d'été, se fait baptiser cet après-midi donc à Crossword. Alors, chacun est le bienvenu. Il y aura donc un repas canadien à partir de 14h à Crossroads. Si vous voulez participer, pourquoi pas, prenez de quoi partager et puis hop, Et puis aux environs des 15 heures, donc les baptêmes. Donc voilà, si vous voulez participer, chacun est le bienvenu. Demain soir, juste pour préciser, on a donc l'étude biblique qui sera donc toujours sur le thème « S'enraciner en Christ ». Et vous êtes invités à lire les chapitres 16 et 17 du livre « S'enraciner en Christ », chapitres qui ont attrait à la fin de la vie, la mort, notre espérance, qu'est-ce qu'il y a au-delà. Donc on est chacun concerné, dans un délai plus ou moins loin, mais dans un délai que l'on ne connaît pas. Donc moi je vous invite vraiment à lire ces chapitres et à venir, à partager, à passer ces moments ensemble. Dimanche prochain, notre culte sera un culte découverte. Et après le culte, après chaque culte découverte, on a le plaisir d'avoir un apéritif. Et dimanche prochain, l'apéritif, je crois que c'est juste, sera préparé par le groupe d'ados. Je vous rappelle aussi les inscriptions pour les camps JAB qui sont au fond de la salle. Prenez-les, ne tardez pas pour inscrire les enfants. Souvent, les camps sont vite remplis. Des nouvelles des uns et des autres, des nouvelles tout particulières de Annelise Mère. Annelise a des soucis de santé depuis quelque temps. Elle a des gros problèmes de cicatrisation. Donc elle a été opérée à plusieurs reprises ces derniers temps. Et elle a des problèmes de cicatrisation, donc à tel point que le médecin parle d'une probable amputation d'un pied. Donc voilà, c'est quelque chose de lourd, de difficile. Pensons à Annelise. Il semble qu'elle ait d'autres artères de boucher dans une jambe. Donc elle a déjà été opérée pour dégager des artères parce qu'elle avait déjà des problèmes de cicatrisation. Et voilà que les problèmes reviennent, continuent. Donc pensons beaucoup à elle. D'autre part, elle souffre beaucoup dès que sa jambe est allongée. Donc dès qu'elle allonge sa jambe, ça lui occasionne beaucoup de douleurs, donc pas facile de dormir correctement. Elle dort souvent sur un canapé. Voilà, ce sont des moments difficiles. Annelise reste malgré tout calme et paisible. Donc pensons à elle, prions pour elle, pourquoi pas une petite visite. Annelise a quand même des projets. Annelise va avoir 80 ans début juillet. Et puis, elle aimerait fêter son anniversaire dans l'église, autour de sa famille spirituelle, entourée. Donc voilà, ça aussi, c'est un sujet qu'on peut réfléchir, pour lequel on peut aussi prier. Cette semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution. On vous invite à prier pour l'Inde, pour les chrétiens qui sont en Inde. Voilà, donc l'Inde, le numéro 17. Prions pour nos frères et sœurs qui sont en Inde. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans le début de l'Épître aux Hébreux. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Amen. Bon dimanche, bonne semaine dans la présence du Seigneur.